Vous écoutez RTL.
RTL.
L'exposition L'Art de DC, l'aube des super-héros au musée Art Ludique présente plus de 250 planches originales historiques, plus de 300 dessins et peintures de recherche pour le cinéma et de nombreux costumes et accessoires véritables des films.
La curiosité est un vilain défaut.
L'Art de DC, l'aube des super-héros, c'est l'exposition événement en première mondiale au musée Art Ludique à partir du 31 mars 2017.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est une exposition magistrale et familiale qui vient d'ouvrir ses portes au musée Art Ludique à Paris. Vous l'avez entendu, l'expo consacrée à l'art de DC, l'aube des super-héros. Son président Jean-Jacques Launier est notre invité sur RTL. Alors on va commencer par cette anecdote qui concerne Catwoman. Vous exposez l'un de ses costumes. Vous pouvez nous le décrire, ce costume?
Alors, c'est vrai, le costume de Catwoman dans le film de Tim Burton, je ne sais pas si on s'en souvient, mais il est porté par Michelle Pfeiffer. Elle est extrêmement fine. De ce que j'en vois maintenant dans ce studio, je vois que Sidonie pourrait sans doute le porter aussi, mais
ne vous emballez pas.
Moi non.
Clairement pas.
Moi, ça va pas être possible.
C'est une espèce de costume un peu fétichiste de féline, clairement, avec son fouet.
Latex, comme matière.
Un côté cuir latex, un peu Vivian Westwood. Il y a des coutures, il se déchire un petit peu, etc. Il est ultra moulant. Il était tellement moulant que effectivement, l'actrice expliquait que tous les jours pour l'enfiler, elle était obligée de s'enduire de talc et de se coller cette espèce de double peau en simili-ska et cuir pour pouvoir tourner. C'était vraiment une épreuve.
Et pour une silhouette légendaire. Jean-Jacques Launier, ça veut dire quoi, DC Comics?
Alors, DC, ça veut dire Detective Comics. C'était, en fait, les premières bandes dessinées à l'époque, c'était des genres différents. Il y avait Action Comics, bande dessinée d'action, d'aventure, et DC Comics, bien sûr, Detective, c'était les policiers. Et c'est dans ces deux grands magazines de l'époque que sont apparus successivement Superman et Batman.
Donc on ne devrait pas dire DC Comics, on devrait dire DC, c'est ça?
On devrait dire, absolument. Mais c'est plus clair, et c'est vrai que l'appellation familière est devenue DC Comics.
Mmh. Superman, c'est le premier des super-héros. Quand et par qui il a été créé, inventé?
Alors c'est le tout premier, et c'est vrai que c'est lui qui crée le genre.
C'est le papa, ce qui est intéressant. Le grand-père, peut-être.
Le père fondateur, on peut dire. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il a été inventé par deux jeunes adolescents, Joe Shuster et Jerry Siegel, qui avaient 17 ans quand ils ont imaginé ce personnage, qui était originaire de Cleveland. Ce sont des enfants de migrants, et je pense qu'il y a aussi cette symbolique qu'on retrouve dans le voyage, puisque Superman arrive d'une autre planète, atterrit aux États-Unis, revêt néanmoins les couleurs de l'Amérique et essaye effectivement à la fois de s'intégrer, à la fois d'être un sauveur, à la fois d'avoir des vraies valeurs. Et c'est vrai que créativement et artistiquement, sa force est aussi sans doute dans l'imaginaire de ces adolescents, de se dire, et si j'avais le pouvoir de faire quelque chose?
Et il n'aurait pas plu à Donald Trump, ce Superman, là, ce migrant qui débarque. Est-ce que le succès de DC Comics avec Superman en couverture, est-ce que le succès est rapide ou est-ce qu'au contraire c'est compliqué?
Alors, le succès est immédiat, c'est-à-dire qu'en 3 mois, ils vendent plus d'un million d'exemplaires. Oui. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à nos jours, globalement, le succès de Superman ne se démentira jamais.
Alors on peut admirer dans votre exposition les costumes portés par Superman dans ses films. À quoi ressemble le tout premier costume?
On a le fameux costume de Christopher Reeve, le Superman. Voilà, je dirais c'est ce film de Richard Donner qui a un peu ouvert la voie au cinéma pour les gens qui viendront après, Burton, etc.
Vous vous en souvenez de la première fois que vous avez vu ce film?
Oui, je dois le dire, et j'ai dû le voir au cinéma en plus, donc ce qui rajeunit personne, parce que c'était en 78. mais c'était fantastique, et c'est vrai que pour avoir interviewé aussi beaucoup d'artistes, de dessinateurs de bandes dessinées, il me dit, je suis rentré dans la salle et quand j'en suis sorti, ça avait changé ma vie, parce que c'est vrai qu'on avait cette impression qu'il volait vraiment, qu'il existait vraiment, et Christopher Reeve l'interprétait magnifiquement.
Vous nous décrivez le costume un petit peu de Superman pour ceux qui l'ont pas dans l'œil là?
Ce côté bleu électrique, cette cape rouge, et j'imagine que vous attendez effectivement le slip rouge qui venait par-dessus le costume, qui était effectivement un signe distinctif de Superman qui par la suite s'estompe.
Donc on sait comment s'habiller Superman, parce qu'il paraît qu'il faut d'abord mettre ses chaussettes, son caleçon, ses pantalons. Lui, c'est collant et slip par-dessus le collant.
Bon. Il n'a pas écouté les conseils de notre ostéopathe de tout à l'heure. En tout cas, le premier Superman avec Christopher Reeve et sa musique, elle est restée à jamais dans nos mémoires, évidemment. Jean-Jacques Launier, Christopher Reeve, c'est le premier à incarner Superman au cinéma ou alors il y avait eu d'autres films avant?
Alors il y a eu des petites tentatives en 48, etc. Il y a eu une tentative plus célèbre alors, qui était de l'animation, le film des frères Fletcher qui a été vraiment au cinéma la première apparition à l'écran de Superman et qui a fait date, qui a inspiré alors là aussi de nombreux artistes. Miyazaki s'y réfère très souvent parce qu'il y a des robots, il y a des dragons, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même Christopher Reeve qui s'est vraiment emparé et qui est devenu une icône et qui est devenu emblématique de Superman, qui a fait 4 films Superman.
Et comment étaient réalisées les scènes où Superman envoyait Superman et Lois Lane s'envoler?
Alors ça c'est fantastique, on est content d'avoir ça dans l'exposition et quand j'ai découvert ce secret, en fait il y a cette fameuse séquence où Superman atterrit sur le balcon de Lois Lane, et elle le voit et il la prend par la main et il la fait voler au-dessus de New York, il passe au-dessus de la Statue de la Liberté. Et là à l'époque, voilà, puisque j'avais vu le film à l'époque au cinéma,
on était bluffé.
C'était bluffant et c'était fantastique. Et en fait j'ai vu, puisque c'était les effets spéciaux et les costumes pour les effets spéciaux font environ 25 cm de haut, on dirait des petites poupées, il y a une espèce de petit voile un peu rikiki pour Lois Lane et un petit c'est très impressionnant de voir à quel point ça fonctionnait alors que c'est un tout petit costume bleu de même pas un bambin avec un petit
on n'utilise plus ça aujourd'hui évidemment.
Non, on fait beaucoup de progrès, oui. Même si de la magie fonctionnait quand même déjà à l'époque.
Bah oui, franchement on y croyait quand on était devant notre écran. Alors ce succès de Superman va inspirer un certain Bob Kane. Qui est-il et quel personnage va-t-il créer, Jean-Jacques Launier?
Alors l'année qui suit, hein, c'est vrai que voilà, dans cette frénésie et ce succès, Bob Kane, qui est lui aussi un très jeune artiste, imagine et cherche un nouveau personnage parce que Superman est un énorme succès et ça va être évidemment lui qui va créer avec Bill Finger, son scénariste, le personnage de Batman. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement Batman, à l'opposé clairement de Superman qui a des pouvoirs quasi divins, Batman c'est un homme qui se réalise tout seul.
Il n'a pas de super pouvoir.
Il n'a aucun super pouvoir. Il y a une récente bande-annonce que j'ai vue au cinéma qui est assez drôle, où on voit sur un film prochain qui va arriver, où justement Flash demande à Bruce Wayne le Batman secret, mais quel est ton pouvoir? Et l'autre lui répond, je suis riche. Et donc, parce qu'il est riche, et c'est vrai qu'il
crée
ses pouvoirs, il crée ses gadgets, il crée ses voitures, ses Batmobiles, mais c'est un être humain.
Et puis, il y a un spécialiste que vous avez interviewé, un spécialiste de l'histoire des comics, dans le cadre de votre exposition, qui dit que tous les super-héros finalement se situent entre Superman et Batman.
Absolument, ça c'est très intéressant. C'est Neil Adams, qui est un des géants de la bande dessinée, qu'on a eu la chance d'interviewer là aussi pour l'exposition, qui nous expliquait que finalement il y a l'alpha et l'oméga, il y a le spectre. D'un côté, il y a Superman avec ses pouvoirs quasi divins, de l'autre, voilà, Batman qui a aucun pouvoir.
Qui n'est que riche.
Absolument, qui n'est que riche. Et en fait, tous les super-héros qui vont arriver par la suite, et Dieu sait qu'ils sont nombreux, sont contenus entre Superman et Batman. Ils ont finalement créé entre 38 et 39 tout le genre à lui tout seul.
Les maîtres étalons.
Absolument.
Batman et Superman qui font face à des méchants qui eux aussi vont devenir mythiques. Le Joker, le Pingouin, Catwoman, on en parlait. On vous les présente tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ils font aujourd'hui partie de notre univers. Les grands studios américains leur consacrent des films à gros budget. Mais qui a créé les super-héros? Quelle place jouent-ils dans notre société moderne? C'est ce que l'on découvre avec notre invité Jean-Jacques Launier, directeur du musée Art Ludique à Paris. Jean-Jacques Launier, on parlait de Superman tout à l'heure. Qui a eu l'idée folle de le faire voler pour la première fois?
Alors c'est vrai que contrairement à ce qu'on peut imaginer, Superman au tout début dans la bande dessinée, il ne vole pas, il fait des grands bonds. Alors, il passe d'immeuble quand même en immeuble, il est déjà quand même
il est souple quand même.
Absolument.
Ouais. C'est un super kangourou.
C'est un peu un super kangourou qui vole au-dessus des gratte-ciels. Ouais. Mais c'est en fait au cinéma, en animation, dans le film, dans la série des films des frères Fletcher, qui étaient vraiment les maîtres de l'animation à l'époque dans les années 40, ils avaient fait notamment le personnage de Betty Boop qui était mythique, et ils se sont lancés dans cette série. Puisque encore une fois le succès foudroyant de Superman a suscité plein d'idées, et effectivement faire une série d'animation en couleur et qui reste effectivement encore aujourd'hui merveilleuse, hein. Je disais que Miyazaki j'en parle, voilà, cite souvent ça comme référence de poésie, de couleur et d'animation.
C'est vrai que c'est très beau, vous le diffusez dans l'exposition d'ailleurs.
Et dès le générique ça commence et on voit, est-ce un oiseau, est-ce un avion, est-ce une fusée? Non, c'est Superman. Et effectivement pour les besoins de l'animation ils font voler Superman qui d'un seul coup s'empare d'une dynamique totalement nouvelle et peut combattre les avions, les fusées, les extraterrestres.
Et ces très beaux dessins, Jean-Jacques Launier, de super-héros, ont-ils inspiré d'autres artistes, par exemple ceux du pop art ?
Alors absolument, ce qu'apporte, c'est voilà, c'est intéressant dans l'expo de voir à quel point les super-héros et ce genre novateur ont influencé la mode, le street art, le pop art, la culture, la télévision et bien sûr le cinéma. Mais et si on parle du pop art, en effet, Andy Warhol qui en 61 était décorateur dans un grand magasin new-yorkais voit ses bandes dessinées et il est vraiment impressionné. Il voit une bande dessinée qui est Superman Best Friend Lois Lane, qui est un album, le numéro 24. Il voit une case qui lui plaît beaucoup, il la découpe, il l'agrandit et il l'expose dans ce grand magasin à New York parce qu'il trouve ça vachement joli. Ça a un succès, voilà, ça plaît beaucoup, c'est complètement nouveau. Et du coup, il se dit, tiens, je devrais en faire davantage. Et il fait une mini-expo. Lichtenstein, qui travaille pour ce même magasin, aperçoit ça quelques semaines après et lui se met carrément à prendre des grandes cases de bande dessinée. Et grosso modo, à eux deux, il lance le pop art.
Ouais. Incroyable.
Et ça se vend aujourd'hui ou ça s'est vendu 10, 20 millions de dollars.
Tout à fait. Il y a un tableau qui s'est vendu, encore une fois, un tableau de Superman, donc créé par Joe Shuster, mais signé Andy Warhol, qui s'est vendu en 2015 14 millions de dollars.
Et ça n'a rien rapporté à Joe Shuster.
Non. Ouais.
Bon, on ne va pas se lancer dans ce débat, mais en tout cas, c'était important de le dire. Cette exposition, Jean-Jacques Launier, elle se tient jusqu'au 10 septembre au Musée Art Ludique, c'est quai d'Austerlitz à Paris. C'est en partenariat avec RTL. Et d'ailleurs, on va vous offrir ce week-end, dans la curiosité, deux entrées gratuite pour l'exposition DC l'aube des super-héros. Alors il faudra bien nous écouter samedi et dimanche de 14h à 15h puisque c'est le contenu de l'émission qui nourrira les questions qu'on vous posera et ça vous permettra de gagner deux places pour cette expo.
Et si on découvrait les super-vilains, parce que moi c'est souvent les méchants que j'aime bien dans les films, on va commencer avec le plus célèbre, c'est le Joker. Quand apparaît-il pour la première fois dans les revues DC Comics, Jean-Jacques Launier?
Alors le Joker, il apparaît en 1940, il arrive très tôt en fait, c'est vrai que c'est un personnage maléfique.
Il ressemble à quoi? Décrivez-le.
Alors,
dans ses premières années.
Il est inspiré du Joker, enfin de la carte à jouer du 14e siècle en Europe. Donc c'est le fou du roi. C'est la folie est vraiment constamment présente dans leur œuvre. Il est tout le temps en train de rire. Et dans les toutes premières bandes dessinées, il tue même ses ennemis avec un gaz hilarant qui effectivement les foudroie, mais ils sont morts avec un rire sur leur visage. Donc il est à la fois complètement fou, satanique, et effectivement voilà, c'est un personnage de cirque. Finalement les auteurs, les créateurs s'étaient aussi inspirés de L'Homme qui rit de Victor Hugo et revendiquaient cette source.
Alors un Joker inoubliable au cinéma, évidemment c'est Jack Nicholson dans le film de Tim Burton, le Batman de 1989.
Mais qui êtes-vous?
Je suis Batman. D'où est-ce qu'il sort ces fantastiques jouets?
J'ai vraiment une vie très... complexe.
Un monstre ailé terrorise. Ils vont voir s'ils vont voir avec moi.
Michael Keaton, évidemment, dans le rôle de Batman, vous exposez... Il y a beaucoup de belles choses à voir dans cette expo. Vous exposez d'abord une statue gigantesque de Batman. C'est ce qui nous accueille. C'est un peu flippant à l'entrée de la salle consacrée à Batman. Et puis vous
il dit bonjour ou pas?
Non, il n'est pas très avenant. Si
d'accord,
vous voyez ce que
on
je veux
dirait
dire.
On passe quoi, on passe
et,
son chemin.
Et puis vous exposez aussi le costume du Joker porté par Nicholson.
Absolument, alors on est très fiers. Cette immense statue, c'est la sculpture funéraire à la fin de la trilogie de Christopher Nolan, Dark Knight Rises. Quand on pense que Batman a disparu et donc ils élèvent une statue on s'en hommage et on a eu la chance de la récupérer, donc elle est assez grande, elle est très spectaculaire. On a effectivement énormément de vrais costumes véritables, voilà, portés par Jack Nicholson, celui de Heath Ledger, le regretté Heath Ledger qui a disparu lui aussi. C'est très intéressant parce que ce sont des personnages tellement puissant qu'au fur et à mesure du temps, les artistes s'en emparent et finalement amènent leur touche dans la série de Christopher Nolan, cette trilogie. Nolan, lui, voulait quelque chose de plus réaliste. Donc, il a demandé à une costumière oscarisée de lui dessiner un costume qui soit vraisemblable, plus un costume de clown. Et elle s'est dit, mais qui aujourd'hui porte des cheveux verts? Qui met des tuniques violettes? Qui est complètement délirant comme ça? Et c'est les rockstars. Elle connaissait moins la BD que les rockstars. Donc, elle s'est inspirée de Pete Doherty, de Keith Richards, le guitariste des Stones, de Iggy Pop, du groupe Kiss, avec leur maquillage incroyable. Et elle a créé finalement une espèce de rockstar qui est devenue, voilà, avec Heath Ledger, le talent d'Heath Ledger, totalement inoubliable.
Et puis un personnage très important aussi dans les Batman, c'est Gotham City.
Alors Gotham City, c'est la ville. Et ça, c'est, là aussi, c'est quelque chose qui est fascinant. La ville de Gotham, son nom vient d'un village anglais, comme vous le savez. À l'époque, en Angleterre, et c'était vraiment au XIIe siècle, il y avait une route qui devait traverser, une route royale qui devait traverser ce village en Angleterre. Et pour éviter ça, les villageois ont fait croire aux chevaliers du roi Jean qu'ils étaient tous fous, en fait. Et donc, ils ont joué les fous. Et comme à l'époque, la folie était, les gens pensaient que c'était contagieux, les types se sont dit, oh là là, on va faire la route ailleurs, et ils ont construit. Mais donc, ce nom de Gotham est resté, la ville des fous, et c'est un écrivain américain, l'auteur notamment de Sleepy Hollow, qui, à la fin du 19e, a cité dans un de ses ouvrages New York, et qu'il a comparé à Gotham City, qui est devenu effectivement, alors pour le coup, une référence.
Un bon Batman, c'est aussi un film gorgé de gadgets et d'effets spéciaux. On vous présente la Batmobile et toutes les maquettes qui ont permis de créer l'univers des films DC Comics. C'est tout de suite les Curieux sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
Puisant son incroyable énergie de la planète Krypton, l'homme d'acier, Superman.
Jusqu'à 22h.
Les voleurs disent d'elle qu'elle bondit comme un chat. Comment peut-on l'appeler ?
Catwoman. La curiosité est un vilain défaut.
C'est pas à vous de décider ce qui est bien ou mal. Tout le monde s'en fout que Clark Kent s'attaque à Batman.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Et après le Joker de Steve Miller Band, on découvre le Joker de DC Detective Comics, ces bandes dessinées américaines qui ont créé les super-héros et les super-vilains, donc le Joker, Catwoman, le Pingouin et tant d'autres pour les découvrir. Le président, directeur du musée Art Ludique, je ne sais pas quel titre vous donnez, Jean-Jacques Launier est toujours avec nous. Il y a aussi Diane Launier qui est là dans le studio de la Curiosité RTL. Et il faut lui tirer un grand coup de chapeau parce que cette expo, elle est aussi magnifique. Grâce à elle, Jean-Jacques, les maquettes de l'expo sont vraiment impressionnantes, notamment celles des gadgets de Batman. Il y a quoi à découvrir dans l'expo ?
Effectivement, on a non seulement les costumes, mais on a certains de ses accessoires principaux, et on en a un gigantesque, c'est la moto, la Batpod que Batman utilise dans la trilogie
Nolan. Avec des pneus énormes, là, c'est ça.
Absolument, elle est gigantesque, elle fait 4,20 m de long, elle pèse plus de 300 kg, et c'est vrai qu'il y avait 6 personnes pour nous aider à la porter, ne serait-ce que pour la soulever, pour la mettre sur son trépied. Mm-hmm. C'est un engin incroyable, j'ai eu la chance d'essayer la position pour voir comment on pouvait conduire ce truc-là. On est pratiquement à plat ventre, voilà, dessus, avec un guidon et les pieds en l'air pour la tenir. Et il n'y a que deux cascadeurs qui arrivent à la conduire, parce que pour le coup, pour les films...
Elle roule ?
Ouais, elle roule, absolument. Elle a un moteur assez puissant et ils ont besoin de la faire tourner, parce que dans le film, voilà, il prend des virages, il accélère, il attaque, et là, ils ne peuvent pas faire des effets spéciaux à ce moment-là. Ils ont besoin de la faire fonctionner. Mais il y a vraiment, il y a une telle inertie sur ces 4,20 m et ces roues, des espèces de trucs énormes de camions, qu'il faut, voilà, il n'y a que vraiment deux spécialistes au monde capables de la faire rouler.
Des gadgets et des super vilains. D'ailleurs, Batman, il est confronté à un type qui a vraiment une sale tête. Hein. C'est Bane. Dans quel film il apparaît, vous nous rappelez ?
Bane, il apparaît dans Dark Knight Rise, mais c'est aussi un méchant traditionnel hein, que Batman affronte régulièrement. C'est Tom Hardy qui fait le rôle dans ce film-là, qui est impressionnant.
Il ressemble à quoi ?
Voilà, il a une espèce de gros masque sur le visage. En fait, le personnage de Bane, initialement, dans la bande dessinée, a un masque de catcheur mexicain rouge et vert. Et c'est vrai qu'avec un collant noir, donc Nolan, ça lui plaisait pas tellement dans le côté réaliste de son film. Il a demandé à la costumière Lynn Deming qu'est-ce qu'on peut faire voilà, pour transposer ce personnage qui est un enragé, qui est un furieux, qui a du venin dans les veines, donc il a besoin d'un masque pour respirer. Et en fait, elle nous a dit il est tellement furieux et révolté contre la société qu'elle a eu l'idée de lui créer une espèce de muselière. En fait. Et c'est vrai que dans le film, il parle avec difficulté parce qu'il a cette espèce de muselière sur le visage qui l'empêche finalement de parler. On l'entend respirer un peu, il est très monstrueux quand même.
Alors dans les méchants, il y a aussi le pingouin, il y a le costume du pingouin qui était incarné par quel comédien déjà ?
C'était Danny DeVito,
dans la série bien sûr.
Burton, absolument.
Mais c'est un vrai bestiaire Gotham City en fait.
Absolument, l'homme chauve-souris, Catwoman, le pingouin, c'est vrai que voilà, les animaux sont très présents. La chauve-souris, bien sûr, c'est la tradition du vampire. Le pingouin, c'est un clin d'œil aussi effectivement au costume, et c'est vrai que c'est un aristocrate le pingouin, c'est un dans la bande dessinée, c'est quelqu'un qui vient d'une famille aristocratique, qui est en lutte contre la famille des Wayne, de Bruce Wayne, qui est aussi une famille richissime. Mm-hmm. Et la référence au pingouin, c'est vraiment le costume de smoking des aristocrates anglais. C'est de là que ça vient. Après, encore une fois, de grands artistes s'en sont inspirés. Tim Burton, notamment, avec Danny DeVito, qui en fait pratiquement un espèce d'animal qui mange des poissons crus avec ses doigts en forme de pince. Ouais. Voilà, ça devient une transposition artistique majestueuse.
Alors, ce qui est passionnant, c'est qu'il y a des super vilains, mais tous ces héros de DC Comics sont aussi confrontés à leur propre démon. C'est l'une des bases, l'un des principes des comics.
Absolument, c'est vrai que, alors c'est Nietzsche, hein, on parlait de Nietzsche tout à l'heure, mais voilà, qui disait la vraie force, c'est pas de savoir battre son adversaire, c'est de savoir combattre ses démons intérieurs. Et c'est vrai que c'est un des thèmes majeurs, parce que les super-héros, il y a quand même un côté philosophique, métaphysique, et dans l'exposition, on a fait appel à
presque moral, ouais.
Ouais, complètement, ce sont des valeurs. C'est vrai qu'ils s'inspirent à la fois des guerriers et des dieux de l'antique grec. C'est vrai qu'ils s'inspirent des chevaliers de la Table Ronde, mais aussi qui viennent finalement puiser dans notre registre moderne, dans ces problèmes et ces peurs de la guerre qui approche, dans la science qui finalement fait à l'époque des gens une espérance de vie, augmente l'espérance de vie et donc fait des super hommes. Donc on peut imaginer que les créateurs ont finalement imaginé des personnages qui soit étaient quasiment divins, soit effectivement pouvaient se créer eux-mêmes leur propre pouvoir. Donc c'est vrai qu'il y a des vraies réflexions philosophiques, et c'est pas pour rien qu'effectivement Batman par exemple fait appel à l'imaginaire de Bram Stoker, le vampire, à Dracula. Et finalement, lui, si Superman choisit de sauver les hommes et à l'espèce de c'est le bienfaiteur, mais c'est le sauveur. Batman, c'est vraiment le vengeur qui est la nuit et qui fait peur, qui veut terroriser, qui veut évidemment venger la mort de ses parents.
Et il y a vraiment l'univers de Tim Burton qui est très présent dans les salles de l'exposition consacrées à Batman. Et moi, j'ai découvert l'existence d'un film qui n'a pas vu le jour, en fait, que devait réaliser Tim Burton. Mais là, c'était un Superman, c'est ça ?
Absolument. C'est vrai. Initialement, c'est vrai que Tim Burton était passionné par Superman, et on a la chance, parce que personne n'a jamais vu, ça n'a jamais été exposé, ses dessins, ses maquettes, personne n'a jamais vu les dessins de recherche et les projets que Tim Burton nourrissait pour faire son Superman. Et alors c'est vrai que le personnage était intéressant, parce qu'à l'époque il avait finalement choisi comme acteur Nicolas Cage pour interpréter Superman. D'ailleurs on peut taper de temps en temps, si on regarde sur internet, la tête qu'il avait, parce qu'il avait fait quelques petits essais en costume. Bon, c'était spécial, hein, quand même. Mais effectivement, Nicolas Cage était lui aussi passionné de Superman, puisque son propre fils s'appelle Jor-El, et Jor-El, c'est le nom que porte Superman sur sa planète Krypton.
Dis-moi, c'est pointu, hein. Mais vous en savez des choses, Jean-Jacques Launier. C'est complètement
dingue. On vous garde, tiens, jusqu'à 22h.
Parce qu'on a encore des super vilains à découvrir. Tiens, les petits derniers au cinéma, je crois, c'est la bande de Suicide Squad. À tout de suite sur RTL.
La curiosité, c'est jusqu'à 22h sur RTL. Vous écoutez RTL.
Sur RTL, on découvre le monde des super-héros et de leurs meilleurs ennemis, les super-vilains, grâce à Jean-Jacques Launier, président du musée Art Ludique, qui consacre jusqu'au 10 septembre une expo à l'aube des super-héros. Jean-Jacques Launier, DC Comics appartient au studio Warner aujourd'hui, depuis longtemps.
Ça fait déjà quelques années qu'ils ont été rachetés. C'est vrai que ces grands éditeurs sont des éditeurs mythiques, et de la même façon que Marvel a été racheté par Disney, finalement DC Comics a été racheté par Warner, et voilà.
Et vous avez eu l'occasion de vous y rendre, et notamment de découvrir une salle absolument gigantesque et incroyable, les archives Warner, où on découvre des trésors. Lesquels ?
Alors c'est vrai que c'est plus qu'une salle, hein, c'est 30 000 mètres carrés, donc c'est colossal, c'est un espèce de hangar perdu au milieu de nulle part, parce qu'ils veulent pas, il y a pas de marqué de nom, il y a rien. Et quand ils vous donnent l'adresse, ils veulent surtout, tu le dis pas, tu fais attention. Voilà,
et donc vous allez nous donner l'adresse maintenant, Jean-Jacques Launier.
2003 6th Street.
Et alors, c'est regard gigantesque.
Arizona.
On y voit quoi ?
Burbank, c'est paumé dans la zone industrielle de Burbank. Personne peut savoir que dedans, alors justement dedans, il y a toutes les archives, mais tous les costumes, toutes les voitures, tous les décors. Ils rangent même les décors de tous leurs films. Et c'est vrai que je me baladais dans ces archives. C'est des immenses couloirs. On ouvre des caisses, on voit des costumes sous cintre, mais des centaines et des centaines de costumes. Et je regardais, et à un moment, je passe une tête et je vois Casablanca, Humphrey Bogart, c'est le costume d'Humphrey Bogart. Et il y avait une espèce de grande rangée où il y avait plein de Batmobile. On aurait dit un parking de Batmobile, quoi. C'était très, très impressionnant.
Mais c'est comme un grand supermarché. Vous qui êtes patron d'un musée, vous pouvez faire un choix, c'est ça, de dire, ah, j'aimerais bien avoir ça dans mon exposition, et ça se passe comme ça.
Ça se passe plus ou moins comme ça. C'est vrai que on sait grosso modo quand on vient ce qu'on a envie d'exposer, quel costume on voudrait avoir, etc., etc. Donc, on revient plusieurs fois aux États-Unis, le voir avec eux, échanger. Mais c'est vrai qu'on a aussi leurs archivistes qui se passionnent pour le projet et qui disent, alors j'ai ça. Et puis alors, ils ouvrent des, c'est un peu comme les trucs des caisses dans Indiana Jones à la fin. C'est énorme. Et alors, ils sortent une maquette d'une Batmobile. Ils sortent, voilà. Et là, c'est un peu une chasse au trésor. Et on a ramené plein de trésors.
Mmh, oui, à voir dans cette exposition muséaire ludique jusqu'au 10 septembre. Alors, l'expo, elle met à l'honneur, on l'a compris, les super-héros, et il n'y a pas que des hommes, il y a aussi Wonder Woman générique.
Je suis comme ça, Thomas, aujourd'hui. J'étais biberonné à Wonder Woman, moi. Donc
Moi aussi, je vois que je regardais ça. J'étais presque plus ado. J'aurais dû passer à autre chose. Mais j'adorais son costume, très très léger. Et ses seins qui étaient très un peu pointus.
Ouais,
c'était pas mal.
Ouais. Elle était très belle, très gironde, très sexy.
Il faut dire les choses. Wonder Woman, elle est créée, vous nous l'avez dit, très tôt. Hein,
41.
Qui souffle l'idée au patron de DC?
Alors, c'est très intéressant parce que c'est vrai qu'à l'époque, Superman et Batman règnent, vraiment une popularité incroyable. Et du coup, ça suscite des polémiques. Certains journalistes disent que c'est vide du sens, que ça dénature la jeunesse. Et il y en a d'autres qui le défendent. Il y a un psychologue, notamment Charles Moulton, qui écrit dans la presse: non, au contraire, c'est porteur de valeur. Nos jeunes ont besoin d'avoir des personnages de référence. Et les gens de DC disent: tiens, il est intéressant, il faut qu'on le rencontre. Oui. Ils le rencontrent et ils l'engagent. Ils disent: nous, on a besoin de vous pour nous aider parce que ce que vous dites dans vos articles est intéressant. Il dit: écoutez, moi, je veux bien, mais il y a vraiment quelqu'un qu'il faut que vous créiez absolument et tout de suite. C'est une super héroïne. Et c'est donc Charles Moulton et sa femme, son épouse, qui vont créer le personnage de Wonder Woman. Ce qui est amusant aussi, c'est que voilà, c'est un psychologue, un scientifique, et qui sera aussi à l'origine de la création du détecteur de mensonges. Et quand on sait que Wonder Woman possède un lasso de vérité qui impose à ses ennemis de dire la vérité, on peut y trouver une analogie.
Ouais, alors, il y a une polémique complètement ridicule, moi, qui me fait beaucoup rire en ce moment, sur le prochain film Wonder Woman, parce qu'elle vient d'une île où il n'y a que des femmes, et le problème, c'est que Wonder Woman, elle est épilée sous les bras. Et il y a des féministes qui disent: mais c'est une honte, parce que sur une île où il n'y a que des femmes, il n'y a pas le diktat de la séduction vis-à-vis des hommes, et donc elle devrait pas
être épilée. On s'épile pas pour les hommes, on peut s'épiler juste pour nous, c'est vrai.
Moi je dis rien, mais ça m'a fait quand même beaucoup rire.
Elle a ouvert la voie quand même, Wonder Woman, à d'autres héroïnes de...
Alors, elle a ouvert la voie. Elle a
de super-héros, j'ai pas l'impression, moi.
Elle a commencé, c'est une précurseuse, mais il a fallu du temps avant qu'une Lara Croft arrive, où maintenant les héroïnes de Star Wars au cinéma sont toutes des femmes qui conduisent des vaisseaux spatiaux. Néanmoins, c'est vrai qu'elle est intéressante parce qu'elle est féministe en soi, au sens où elle ne revendique pas de faire comme les hommes. Elle l'est. Elle est vraiment une super-héroïne, elle ne se justifie jamais. Je trouve qu'elle est assez fascinante, et c'est vrai qu'elle a été, dans les années 70, même si elle était très sexy pour des féministes, néanmoins elle était quand même, elle accompagnait le mouvement un peu de libération, elle était, voilà, et je trouve que c'est un étendard féminin qui a été précurseur dans son genre.
Il y a un autre personnage féminin là qui a crevé l'écran dans le film Suicide Squad, c'est Harley Quinn. Alors c'est moi je l'ai pas vu ce film. C'est qui ce personnage?
Harley Quinn, alors ça c'est un autre genre, c'est pas vraiment Wonder Woman. Elle est plus trash. À l'origine, c'est la psychiatre qui prend en charge le Joker quand il arrive dans l'asile d'Arkham.
Ah, il y a du boulot, ouais.
Voilà, elle s'appelle Harleen Quinzel, et elle essaye de l'analyser.
Et il va déteindre sur elle, c'est ça?
Exactement, elle tombe amoureuse du Joker et elle devient Harley Quinn. Alors, au début, elle vient en fait de l'animation. En 1992, c'est assez étonnant, c'est un des rares personnages qui n'a pas été créé en bande dessinée, mais dans les films d'animation de Bruce Timm, qui a été ensuite repris dans les bandes dessinées et bien sûr au cinéma. Mmh. Et c'est vrai que voilà, elle devient Harley Quinn parce que son costume dans l'animation, c'est un costume de harlequin. Dans le film qui est sorti récemment au cinéma, c'est plus du tout un costume d'harlequin. Elle est vraiment très urbaine, elle a un côté punk, et elle a son maillet qui est un maillet issu des clowns un peu de cirque, est devenu une batte de baseball. Et elle a beaucoup beaucoup plu à une cible très adolescente.
On a évoqué, mais très rapidement, les points communs entre les histoires de super-héros et la mythologie grecque. Avec ces personnages, on sait quoi ? On s'est inventé de nouveaux mythes ?
Je pense que c'est vraiment des mythes contemporains. C'est vrai que les chevaliers de la Table Ronde, ils sont arrivés au XIIe siècle, par exemple, avec Chrétien de Troyes qui imagine ces personnages et dont on pense, dont beaucoup pensent aujourd'hui qu'ils ont vraiment existé. Et c'est vrai que voilà, ces deux jeunes dont on parlait, quand ils créent Superman, ils créent eux aussi un genre, comme le genre policier qui avait été inventé avec l'invention de la police, basiquement. Hein. Voilà, eux inventent les super-héros en s'inspirant un peu de leurs rêves et de leurs aspirations. Mais non seulement ils inventent ce genre, mais en plus ils le dessinent. C'est-à-dire qu'ils dessinent les costumes, ils dessinent les emblèmes, ils dessinent les logos et ils vont jusqu'à dessiner et imaginer tous les personnages et les super vilains.
Il y a les dessins et puis il y a les maquillages aussi, les dessins sur les physiques. Justement, vous les mettez à l'honneur dans votre exposition, ces maquilleurs ?
Absolument. On est content d'avoir pu aller interviewer tous les gens qui ont fait les décors, qui ont fait les costumes, qui ont fait les maquillages et qui, justement, à côté des œuvres, expliquent les origines, expliquent comment ils ont eu ces idées. Je pense que c'est assez fascinant parce que là, on fait appel finalement au design, au graphisme, à la décoration, au costume. Et c'est vraiment un art contemporain à part entière, c'est du figuratif narratif et c'est une vraie expo artistique.
Merci beaucoup Jean-Jacques Launier, bravo à vous, bravo à toutes les équipes du Musée Art Ludique menées par la directrice générale Diane Launier. Cette expo est à voir en famille jusqu'au 10 septembre prochain et nous on vous fait des cadeaux. Tiens, regardez si vous nous suivez sur rtl.fr, ce catalogue, il est magnifique, c'est le catalogue de l'exposition. Vous allez pouvoir le gagner ce
avec
week-end, avec deux places pour l'expo en jouant et en nous écoutant à 14h, c'est samedi et c'est dimanche.
Vous écoutez RTL.